pense qu'on va du coup commencer juste à l'heure, comme ça on pourra vous laisser repartir à temps. Donc merci d'être venus nombreux en fin de soirée. Moi c'est Delphine Dubassier, je suis enseignante chercheuse et experte internationale en comptabilité du développement durable. J'ai la chance d'avoir fait partie des deux task forces de l'EFRAG qui ont rédigé le premier rapport à destination de l'Union européenne, puis les normes. J'ai fait partie de ceux qui ont écrit celles que vous avez pu voir en avril dernier. Et puis ensuite, ça a été repris par le bureau de l'EFRAG. Et j'ai fondé Vert de Gris l'an dernier, qui forme les directions financières et les directions RSE à la comptabilité du développement durable. Et aujourd'hui, on va surtout parler de CSRD avec notre partenaire Figure. Voilà, je te laisse.
Bonjour à tous, merci de votre présence. Donc Emmanuel Flatet, moi je suis expert comptable et très content d'être avec vous ce soir pour vous parler de la CSRD, qui est un sujet qu'on commence à apprécier dans sa mise en œuvre en ce moment même et dont on va essayer de, sur le sujet sur lequel on va essayer de vous donner quelques éclairages utiles en matière de conduite de projet notamment. Voilà.
Alors du coup, oui, ça marche, super. On vous avait donné comme titre un projet d'entreprise au service de la transition socio-écologique. Donc notre objectif, c'est vraiment de positionner la CSRD comme un instrument aussi pour faire avancer les choses, pas seulement en termes de conformité, mais bien au-delà. Donc c'est ça ce dont on va parler aujourd'hui. Je vais d'abord faire une petite fiche d'identité de la CSRD et des ESRS. On ne va pas passer trop de temps là-dessus parce que je pense que vous avez à peu près tous normalement eu les informations, mais je peux répondre aux questions si besoin sur ces enjeux-là. Mais on ira surtout sur les points transformationnels qui me paraissent le plus important. Il y a quand même des points clés dans la construction de ces normes qui sont importants à découvrir. Alors déjà, la CSRD, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on en parle beaucoup, mais qu'est-ce que ça veut dire derrière? Alors j'insiste un petit peu sur les points normatifs. La CSRD, c'est une directive. La directive, elle a été écrite par l'Union européenne, donc c'est bien le Parlement, et elle est votée et définitive depuis novembre 2022. Donc là-dessus, on ne revient pas. Donc qui dit directive dit transposition en droit français et dans les droits des différents pays européens. Cette transposition, elle est attendue dans les mois qui viennent. Normalement, en France, ça ne devrait plus trop tarder. Mais ils ont 18 mois pour le faire, pour la transposition. La CSRD, à la différence de la NFRD, qui est donc la petite sœur que vous appliquez normalement toujours cette année, la NFRD avait laissé pas mal de liberté aux pays pour la transposition. La CSRD en laisse un tout petit peu moins. Voilà. Donc ça devrait être un petit peu plus standardisé. Donc il y a énormément de choses en fait qui sont calées dans la CSRD. On n'en parlera pas forcément beaucoup aujourd'hui, mais notamment la transformation de la profession de commissaire aux comptes en Europe. C'est vraiment dans la CSRD que ça se passe. Évidemment, les histoires de qui va être soumis à sont définies dans la CSRD. Et aussi, et c'est important de le savoir, une grande partie des ESRS sont structurées dans la CSRD. Donc parfois, on me demande, mais pourquoi vous avez fait ça dans les standards, etc. Ben, tout simplement parce que la directive ne nous laisse pas le choix. Notamment, par exemple, on parle beaucoup d'interopérabilité avec l'ISSB, les normes anglo-saxonnes, c'est défini dans la CSRD. Donc, il n'y a pas le choix. Il y a les sujets aussi qui sont traités sont définis dans la CSRD. Donc, ça, c'est quand même important à comprendre. Et puis, derrière, du coup, il y a les ESRS. Ce sont les premières normes au monde qui sont des normes publiques, émises par une institution qui défend le bien public. C'est quand même important, c'est nous, les citoyens, pas que la partie entreprise, mais nous, citoyens. Et donc, ces normes-là sont écrites par l'EFRAG. L'EFRAG, qui était une institution qui, jusqu'ici, s'occupait de la mise en place des normes financières et qui a donc une deuxième jambe qui s'est mise en place avec une gouvernance équivalente à celle du financier. Et donc, c'est eux qui, en ce moment, écrivent les normes et qui, ensuite, sont validées par l'Europe. Et à la différence de la CSRD, ces ESRS-là sont définis par décret. Il n'y a donc pas de transposition. Donc elles ont été validées, les premières normes, en fin juillet 2023. Et donc vous avez une gentille traduction française que vous avez dû sans doute tous apprécier. Et ces normes-là sont définitives jusqu'à la prochaine révision, hein, parce qu'elles sont soumises à révision. Donc voilà où on en est de ces textes-là. Ensuite, il y a quand même pas mal de changements qui me paraissent vraiment importants à souligner, qui sont fondamentaux en termes de mise en place du nouveau reporting. La double matérialité, on en parle beaucoup. Tout le monde faisait une double matérialité, ou au moins faisait une matérialité. Et puis on s'est rendu compte que ce n'était pas exactement la même chose que ce que demande la CSRD. Donc on est sur une double matérialité qui est bien précisée, bien redéfinie, et qui devient aussi la pierre angulaire, non seulement du texte européen, mais de toutes les discussions internationales sur le reporting, puisque vous avez vu comment ça peut déclencher des discussions avec l'ISSB, les Américains, etc. Et ça fait partie, je pense, de la grande volonté des Américains de nuire au texte, en tout cas de faire un lobbying très, très important pour le rendre un petit peu moins impactant chez eux. On passe de 10 000 à 50 000 entreprises, mais pas seulement, en fait, on passe à 60 000 entreprises, puisqu'il y a 10 000 entreprises internationales concernées, hein, ça c'est une estimation, et notamment américaines, canadiennes et du Royaume-Uni, de par leur chiffre d'affaires qu'ils font sur le territoire européen. Donc c'est très très important. Ça veut dire aussi, derrière, hein, vous savez, c'est ce qu'on appelle l'effet de halo, ça va toucher les fournisseurs, ça va toucher les PME, assez rapidement, et puis du coup, ça va avoir un impact beaucoup plus important. Les textes européens, je vois beaucoup de figures, de dessins, hein, qui disent l'ISSB au-dessus et qui mettent les frags en dessous, mais on sait qu'en fait, les textes européens, qui sont souvent très très en avance, ont l'habitude de décémer. Donc par exemple, la taxonomie, est-ce que quelqu'un sait combien de textes de taxonomie sont en cours de discussion dans le monde aujourd'hui? Oui? 5? Alors, qui dit mieux, ouais. Non? Pas d'idée? 5, c'est loin du compte. Hein. 85 textes aujourd'hui en discussion, et je pense même qu'il y en a plus que ça qui sont en discussion. Ça veut dire que la CSRD, c'est un texte qui va avoir des répercussions bien au-delà de ce qu'on pense en Europe. Donc pour la première fois, des standards publics, ça on en a parlé, et moi je trouve que c'est très très important d'appuyer ce point-là, ce qui fait qu'on est quand même défendu et validé par le Parlement européen. C'est quand même celui qui nous représente en tant que citoyens. Un rapprochement avec le reporting financier, ça je pense que ça fait de doute à personne. On va le démontrer à nombreuses reprises, mais moi ce qui me paraît quand même très très important dans la CSRD elle-même, c'est de regarder à quel point la fonction, donc la profession des commissaires aux comptes est fondamentalement changée par le texte de la CSRD qui, au lieu de donner des indications pour les nouveaux commissaires aux comptes des rapports extra-financiers, a tout simplement dit, vous prenez la directive comptable de 2013 et vous faites la même chose pour l'extra-financier, tout simplement. Donc c'est le mettre, et d'ailleurs ils l'ont dit dans leur communiqué de presse quand c'est sorti, c'est le mettre au même niveau. Les punitions, d'ailleurs, les sanctions sont les mêmes aujourd'hui pour les nouveaux rapports pour les commissaires aux comptes que ceux qu'ils ont en cas de problème sur les rapports financiers. Mais ça va aussi dire pour vous un timing de reporting qui va être similaire, ça va être une qualité de la donnée qui va être se rapprocher de plus en plus de la qualité de la donnée extra-financière, etc. Et bien sûr, l'audit, alors en France, on l'avait déjà, mais ça ne concernait pas tous les pays européens. Aujourd'hui, ça va concerner tous les pays européens. Derrière, il y a aussi toute une gouvernance qui va être complètement différente. On parle beaucoup du rôle du comité d'audit ou du comité RSE. On va avoir l'obligation de créer des contrôles internes dédiés. Ça aussi, c'est une profession, la profession contrôle interne, audit interne, qui jusqu'ici ne se préoccupait pas de ces sujets-là et qui aujourd'hui est complètement en train de changer de regard sur ce sujet-là. Regardez ce que l'IFACI d'ailleurs fait à propos du sujet de la RSE. Et il y a, on va le voir d'ailleurs tout à l'heure, dans les ESRF, un sujet important là-dessus. Une obligation d'un format électronique commun. Donc ça veut dire aussi une standardisation de la façon dont vous allez reporter. Donc on ne le voit pas encore. Vous avez vu, il y a des choses qui ont été publiées par les FRAG, mais très très peu. Mais en tout cas, il y a une ambition de la Commission européenne de rendre ce format machine readable et human readable. Ça veut dire aussi derrière que du coup, les tableaux, etc., vont vraiment se ressembler d'une entreprise à une autre. Peut-être pas la première année, mais en tout cas, ça va évoluer dans ce sens-là. Alors, en France, c'est pareil, c'est déjà le cas. Le rapport de durabilité se trouvera dans le rapport annuel. Hein, donc, ça veut dire que ce n'est plus. D'où le reporting similaire. Hein, et l'exigence de traitement et des sujets est accrue, puisque vous avez les sujets obligatoires, les fameux topics, subtopics, subtopics, dont vous avez vu la liste, qui sont donnés et qui sont exigés par la CSRD, mais aussi par le Green New Deal. Hein, vous avez vu qu'il y a évidemment une cohérence entre la taxonomie, les sujets de la CSRD et les références européennes. Alors, on arrive aux ESRS, donc ça, une slide que vous avez déjà dû voir un très grand nombre de fois, hein, les standards transversaux, ESRS 1, 2, le 2 est le seul qui est obligatoire, peu importe l'entreprise dans laquelle vous êtes, et puis les standards environnementaux, sociaux et de gouvernance. Derrière, on aura les standards sectoriels qui ont été repoussés, puis les standards pour les PME, aujourd'hui avec une date inconnue, mais il y a des standards qui sont prévus et qui sont, à mon avis, très importants, notamment parce que la CSRD le dit bien, dans la chaîne de valeur, on ne peut pas demander des informations à ces PME plus importantes que ces fameux standards qui sont en attente. Donc, la liaison de tout ça est très, très importante. Derrière, vous avez aussi une autre cohérence et une structure. On voit moins ces informations-là, mais il y a eu un alignement de tous les standards setters avec les chapitres de la TCFD. Donc ça, c'est important à comprendre. Donc l'ISSB, notamment, la TCFD qui a été absorbée par l'ISSB, les ESRS ont tous la même structure. Donc gouvernance, stratégie, impact, risque et opportunité, indicateur. Et dedans, vous avez politique, plan d'action, objectif, indicateur. Moi, je pense que c'est très, très important de regarder et d'avoir ça en tête. Ces chapitres sont non négociables, obligatoires. Et dedans, quand vous aurez quelque chose qui est matériel, tout devient matériel, sauf certains indicateurs. Mais tout le reste devient matériel. Ça veut dire aussi que vous devez avoir une très grande cohérence entre vos politiques, vos plans d'action, vos objectifs et vos indicateurs. Et c'est là que je pense qu'il y a des choses qui vont être soulevées dans les entreprises, puisqu'il faut absolument une cohérence entre tout ça. Alors, c'est quoi les ESRS et c'est quoi comme révolution ? Alors, plusieurs choses. Pour moi, la connectivité. Donc, qu'est-ce qu'on appelle la connectivité ? La connectivité entre le financier et le non-financier, c'est l'obligation que les chiffres soient cohérents. Donc, on vient de parler de plan d'action. Les plans d'action doivent être monétarisés. Les chiffres que vous mettez dans les plans d'action monétarisés doivent être cohérents avec ce que vous mettez dans le financier. Vous devez pouvoir faire la liaison entre une ligne de votre bilan, etc., et ce que vous mettez là. Le double plan de transition. Alors, certes, le plan de transition biodiversité a été rendu non obligatoire, mais quand même, c'est la première fois au monde qu'il y a un plan de transition biodiversité dans un standard. Et pourquoi ? Parce que la crise qu'on vit actuelle environnementale, elle est double. Elle est climat et biodiversité. Et ça, l'IPCC et l'IPBES, le GIEC et l'IPBES l'ont très bien dit. Donc je trouve que c'est fondamental que dans les ESRS aujourd'hui, on exige un double plan de transition climat et biodiversité pour les entreprises dont les deux sujets sont matériels. C'est intégratif de toutes les directives phares de l'UE. Donc vous avez la SFRD, la taxonomie, et le devoir de vigilance. Alors, devoir de vigilance, c'est une directive qui est non finie hein, aujourd'hui, mais elle est complètement déjà intégrée dans le cœur du texte. Hein. D'ailleurs, on a tout un paragraphe qui explique à quel point c'est important, même si vous dites vous n'êtes pas obligé d'eux, en fait, il est partout. Hein, donc, la SFRD, les indicateurs sont compris, la taxonomie, les indicateurs sont compris. Le contrôle interne, on reviendra là-dessus, la qualité des données, la cohérence entre les sujets matériels, politiques, plans d'action, objectifs et mesures, et une cohérence accrue avec tous les principes de la TCFD qui jusqu'ici étaient juste sur le climat. Donc pour faire un résumé, les ESRS, c'est quoi ? Ce sont des textes qui sont quand même régis par la CSRD, ça c'est important, avec un nombre de data points très important, même si ça a été réduit. Je ne le connais pas par cœur, mais il est quand même beaucoup moins important qu'avant. Une exigence de contrôle interne, une application progressive, vous avez beaucoup, beaucoup de phases, notamment pour les entreprises de moins de 750 salariés. Une cohérence demandée, des sujets environnementaux qui sont structurants avec un alignement avec la taxonomie. Et puis les premiers standards qui sont publics, portés au même niveau que les standards financiers. Alors maintenant, quels sont les points transformationnels de l'implémentation de la CSRD ? Il y en a pour nous 6. Donc je vais les évoquer relativement rapidement parce qu'il faut qu'on passe aussi au projet d'implémentation de la CSRD. La double matérialité, hein, on le voit, c'est compliqué. Moi, je vois beaucoup de double matérialités qui, en fait, sont des simples matérialités dans la façon d'exprimer les sujets qui redeviennent des risques pour l'entreprise et qui ne sont plus des impacts pour la société. L'implication pour la finance et l'audit, la science et la contextualisation, on en parlera, le format du rapport, la qualification des données et la chaîne de valeur. Alors, pourquoi donc la double matérialité ? Je vous ai remis les textes de juillet. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais vous voyez, dans une simple définition, vous avez un certain nombre de points qui sont importants, positifs et négatifs, court, moyen, long terme, chaîne de valeur amont aval, produits et services, relations d'affaires, etc. Et ne se limite pas aux relations contractuelles. Donc dans à peine 4-5 lignes, vous avez un certain nombre d'exigences qui sont déjà très très présentes, et ça sur les deux côtés, puisque la matérialité financière se définit aussi de manière très très précise dans les textes. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même une certaine révolution, on le voit dans les grandes entreprises, j'ai une représentante dans la salle d'un groupe de travail, c'est pas simple, c'est très exigeant, et ça fait partie des premières étapes à réaliser. D'ailleurs, votre processus de double matérialité, qui jusqu'ici n'était pas rendu public, doit être rendu public et doit être audité. Donc, jusqu'ici, vous pouviez donner quelques informations, dire j'ai rencontré mes parties prenantes, etc. Aujourd'hui, ça va être un petit peu plus concret. Alors, marcher sur les deux jambes, c'est une expression de Patrick de Cambourg qu'il adore, qui disait très très souvent. Et ça, c'est des textes qui viennent directement de la commission. Les rapports financiers et de développement durable seront sur un pied d'égalité. Donc ça change absolument tout. Elles feront évidemment l'objet d'un audit et de données comparables et fiables. Donc il y a plusieurs professions, et celle de DAF aussi, hein, je ne développe pas forcément beaucoup aujourd'hui, mais celle de contrôle interne, c'est le fameux ESRS 2 GOV 5, qui impacte la profession d'auditeur interne et de contrôleur interne. Ici, vous voyez, il faut publier la méthode d'évaluation des risques, les principaux risques identifiés, la gouvernance, mais ce qui est très très important ici, c'est l'intégration dans le processus global de gestion des risques de l'entreprise et utilisée pour évaluer le profil de risque général de l'entreprise. Donc c'est plus du tout quelque chose de séparé. De la même manière qu'on vous dit que ça va intégrer le reporting financier, il va falloir que ça s'intègre à la discussion des contrôles internes et des risques plus généraux. Ça, c'est quelque chose qui est aussi exigé dans l'ISSB, donc c'est très cohérent en termes de demande. Les audits de rapports de durabilité, donc l'audit est obligatoire, pas nouveau pour la France, mais ce qui est nouveau, c'est que l'Europe a décidé d'écrire ses propres normes, de la même manière qu'ils ont écrit les standards. Donc ils vont aller vers l'assurance limitée, puis l'assurance raisonnable, d'où aussi l'importance du contrôle interne et de l'audit interne pour arriver en 2028 à un résultat cohérent. Et là-dessus, on est sur une exigence qui est quand même très importante. Hein. 2028, c'est après-demain, c'est ça, hein, pas très longtemps. Et donc les normes seront en cours d'écriture aussi. Moi, ce qui m'importe, je viens du monde de la recherche. J'ai aussi d'ailleurs une amie chercheuse dans la salle, une collègue chercheuse. Et donc, on travaille beaucoup sur les seuils écologiques et les limites planétaires. Ça me paraît essentiel d'avoir une boussole. Et la seule boussole qui compte, c'est la planète. Hein, et la planète, elle compte avec ses indicateurs, et notamment ceux qui ont été définis en 2009 par l'équipe du Stockholm Resilience Center. Donc, on a la chance d'avoir des mentions, des limites planétaires et des seuils écologiques dans les ESRS, partout, dans les ESRS environnementaux. Hein, ça a été appuyé par l'Europe. Hein, donc vous voyez que vous devez, quand vous placez des objectifs, parler des seuils écologiques. J'ai mis deux exemples, mais il y en a d'autres, des ESRS E5 et E4, et ça, c'est quand même très important. Et on est sur quelque chose de basé sur la science. Hein, donc dans la CSRD elle-même, vous avez des mentions du GIEC, mais vous avez aussi des mentions, des science-based targets, des méthodes scientifiquement reconnues sur une base scientifique avec des seuils écologiques pouvant être locaux, nationaux et mondiaux. Donc ça aussi, il va falloir que vous vous appropriez toutes ces notions-là et que vous fassiez appel à des personnes pour fixer vos objectifs qui sont en cohérence avec cette demande de base scientifique. La chaîne de valeur. Alors ça, c'est un sujet, bon, vous avez plusieurs années, c'est en phase in hein, pour vous y mettre. N'empêche qu'elle est présente un petit peu partout. Elle est présente dans la divulgation d'informations en lien avec la nature, donc les ressources, les ingrédients. Dans le scope 3, évidemment, celui-là, vous le connaissez plutôt bien. Dans la circularité de vos chaînes, dans les communautés affectées, c'est un terme relativement nouveau, les fameux affected stakeholders, dans la conduite des affaires, donc dans la partie gouvernance, mais aussi dans la divulgation de toutes les informations liées aux employés de vos chaînes de valeur. Donc en fait, la chaîne de valeur, il y a un texte dans les ESRS 1, il y a un guide qui est en cours de finalisation, mais en dehors de ça, vous allez voir que c'est très 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 présent et qu'on va bien au-delà du tier 1. Hein, jusqu'ici, on disait ben, « j'ai que mon fournisseur de rang 1 et je le connais bien et ça suffit ». C'est même mis dans le guide que ce n'est pas la bonne approche. Hein, la bonne approche, c'est une approche par hotspot, souvent on dit, c'est-à-dire que vous devez comprendre dans quelle géographie, dans quelle activité votre chaîne de valeur et les impacts sont matériels et les risques aussi. Une dernière nouveauté, les impacts positifs et opportunités. Alors, les impacts positifs, moi, je trouve ça un peu dommage parce qu'il n'y a pas de définition. On ne sait pas ce que c'est dans la CSRD. Et c'est bien dommage. Donc, je vous dirais d'aller voir ce que la GRI dit dessus. Parce qu'aujourd'hui, la Global Reporting Initiative a bien défini ce que c'était qu'un impact positif. Là, je parle d'impact, hein, d'impact sur la société et l'environnement. Et puis, mais vous devez les reporter. Et puis, les fameuses opportunités qui sont, elles, financières et que les financiers détestent reporter parce que ça veut dire reporter des choses qui peuvent se passer sur le chiffre d'affaires, etc., des produits. Et ça, on n'aime pas trop. Généralement, on le garde pour soi. Donc ça, c'est deux éléments qui sont demandés dans la CSRD. Et puis, vous devez aussi passer sur du court, moyen et long terme. Un petit peu partout, de la même manière, vous allez devoir définir du 1 an, du 2 ans, du 5 ans, sur les plans d'action et de transition, sur les impacts, risques et opportunités, sur les objectifs et avec des scénarios. Donc, de la même manière, c'est des choses que les financiers n'aiment pas trop faire, parler du futur. Mais dans le développement durable, bah, c'est ce qui nous intéresse. Parce que ce qui nous intéresse, c'est les plans de transition de vos entreprises pour être compatibles avec le monde de demain. Vous avez aussi un tout nouveau format, et ça, j'entends les entreprises râler, me demander, vous êtes sûr ? Vous êtes bien sûr ? On doit vraiment faire comme ça ? Et oui, aujourd'hui, les informations sont à reporter dans un ordre très précis. Vous n'avez pas le choix. Le SRS2 d'abord, l'environnement, le social, la gouvernance, et dans chaque ESRS, vous avez des exigences de d'abord faire celles qui sont sur le sujet, puis sectorielles, puis entité. Donc ça, ça ne plaît pas toujours aux entreprises parce que ça veut dire le faire dans un ordre qu'elles ne faisaient pas forcément avant, mais c'est une exigence avec un exemple qui est dans les ESRS de juillet. Du coup, je te passe la main pour le...
Merci, Léphine. Donc après cette mise en perspective et ces précisions sur cette directive, on va rentrer sur un aspect un petit peu plus pratique peut-être de la CSRD. Et on va partager avec vous la vision qu'on a du texte et du projet sous-jacent. Alors, six idées importantes qu'on aime bien partager. Peut-être que la première idée, celle par laquelle j'ai envie de commencer, c'est de garder du sens. Et on va y revenir un petit peu après. Un projet CSRD, c'est pas uniquement un exercice de remplissage de chiffres dans des tableaux. Il faut que cet exercice ait du sens et il parle fondamentalement de votre entreprise, de vos actions, de votre transformation. Et on pense que c'est à tout moment du projet essentiel de rester connecté à cet objectif. Garder le cap, là aussi, important de savoir finalement pourquoi on fait tout ça et dans quelle dynamique ça s'inscrit. On y reviendra un petit peu après. Anticiper les basiques aussi en quelques précisions. Qu'est-ce qu'on veut dire par rapport à ça ? Alors, certaines entreprises les ont déjà anticipées, les basiques. Mais pour toutes ces entreprises qui, aujourd'hui, du fait de l'abaissement des seuils, se retrouvent concernées par la CSRD, très souvent, la première chose qu'on leur dit, c'est qu'il y a déjà tout un tas de choses qui vont vous être exigées, que vous pouvez d'ores et déjà commencer à faire. Une des premières choses les plus évidentes, c'est peut-être le bilan carbone. Des entreprises qui viennent de passer en dessous des seuils, pour certaines, n'ont pas encore initié de bilan carbone. S'il y a un truc à faire, c'est peut-être déjà tout simplement ça. C'est de toute façon obligatoire pour les entreprises qui sont soumises. Ça peut être également d'initier une démarche structurée de dialogue avec les parties prenantes. Là encore, beaucoup d'entreprises qui sont touchées par cet effet de seuil n'ont pas forcément initié ce genre de choses. Donc on parle vraiment des réflexes, des fondamentaux, disons, de la RSE, qui sont bien connus, qui sont des pratiques déjà installées, sur lesquelles on a des méthodologies solides et qui peuvent de toute façon être anticipées. Dialoguer avec les pairs, là aussi, ça peut être fait très vite. Ça pouvait déjà être fait il y a quelques temps. Pour une entreprise donnée, dans son secteur d'activité, elle a autour d'elle des chambres de commerce, des fédérations professionnelles, des concurrents, différents moyens de rentrer en contact avec ses concurrents et son écosystème. Et c'est très souvent dans ces écosystèmes qu'on va déjà trouver un premier niveau de réponse. Beaucoup de choses qui sont faites par les fédérations professionnelles, par exemple. Il se passe beaucoup de choses dans les chambres de commerce. Je ne sais pas si vous avez pu regarder notamment les travaux récents de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, mais c'est vrai des autres. Et puis, renforcer vos équipes, c'est assez difficile d'envisager de se lancer dans un projet CSRD sans muscler le dispositif humain qui va l'accompagner. Donc c'est des recrutements, assez souvent, pour des entreprises d'une certaine taille, et puis c'est de la formation. Et ça s'anticipe parce que c'est un peu long, il y a un peu d'inertie. Et puis il faut quand même, vous avez vu un peu la complexité du texte, il faut un petit peu de temps de digestion. Donc s'il y a quelque chose anticipé, c'est peut-être en premier lieu ce point. Quand on se lance dans un projet de CSRD, c'est la première discussion peut-être qu'il faut avoir, et elle réserve souvent des surprises. C'est finalement quel est le niveau d'ambition qu'on va donner à ce projet. On peut aborder le sujet, et on vous dira pas ce qu'on en pense, on peut aborder le sujet comme un simple exercice de conformité. On peut se dire, finalement, tout l'enjeu, ça va être de faire ça, de livrer un rapport de durabilité, de réussir à obtenir le tampon de mon commissaire aux comptes, et de faire en sorte qu'on y alloue le minimum de moyens et qu'on y passe le moins de temps possible. On peut avoir cette approche minimaliste, et là encore, pas de jugement. Ce qu'on pense, c'est que ça va être assez difficile à tenir comme position sur la durée, parce que c'est globalement un texte qui est fait pour être transformatif. Et donc, si on l'aborde que sous un angle strict à minima, en quelque sorte, on se retrouve un petit peu coincé. Mais disons que sur l'échiquier, il y a cette idée de dire, ok, c'est un reporting de plus, on va le faire, on va bien le faire, mais on va le faire le plus vite possible. Et puis, il y a une autre vision du monde qui est de dire, ce texte-là, en fait, finalement, c'est une élévation du niveau d'exigence. C'est effectivement un moment important où on commence à porter l'extra-financier au même niveau que le financier et on va en faire un projet de transformation. Alors, ce n'est pas la CSRD en tant que telle qu'un projet de transformation. En général, ça s'intègre dans une démarche de transformation plus large de l'entreprise qui, en général, a déjà initié d'autres projets de transformation. En tous les cas, ça va être un levier supplémentaire pour transformer l'entreprise en profondeur dans sa stratégie, dans ses choix d'investissement, dans le choix de ses activités. Alors, cet arbitrage, cette réflexion sur où est-ce que vous mettez le curseur entre on en fait un exercice au plus court et on en fait un exercice transformatif, évidemment, il faut se poser la question, puis il faut surtout aligner l'entreprise. Parce que ce qui est assez fréquent quand même, c'est que quand on rencontre des groupes un peu structurés, on a autour de la table un directeur RSE, un DG, un DAF, un directeur des achats, en tous les cas des personnes qui portent un regard différent sur ce texte, le plus probable, c'est qu'ils aient une vision assez différente du sujet. Et qu'on ait un DAF, bon, je dis le DAF parce que c'est peut-être finalement souvent les dernières entrées dans beaucoup d'entreprises. C'est-à-dire que c'est assez fréquent de voir des directions financières très centrées sur la production d'informations financières, jusqu'à présent assez peu impliquées sur ces sujets d'extra-financiers. Et puis maintenant, quand on s'aperçoit que tout ça est en train de se rapprocher à grande vitesse du financier, qu'on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de données à manipuler, que le commissaire aux comptes, finalement, il va être de façon beaucoup plus évidente dans la boucle, on se dit, là, il n'y a plus moyen de faire comme vous pouvez faire avec une DPEF, il n'y a plus moyen de bricoler un rapport RSE ou une DPEF dans son coin sans impliquer la direction financière, ou en l'impliquant à minima, en lui demandant quelques chiffres pour nourrir une DPEF, là, forcément, ça devient un acteur incontournable dans la CSRD. Donc, il va falloir l'impliquer. C'est nouveau. C'est nouveau pour beaucoup de DAF, qui, d'ailleurs, sont face à des enjeux considérables de compréhension du sujet et de formation. Mais ce DAF, il va peut-être, lui, pris par tout un tas d'autres priorités, il va peut-être être tenté, à un moment donné, d'avoir une vision plutôt conformité. Je ne dis pas que c'est le cas de tous les DAF, hein. Et heureusement. Et puis à l'inverse, on peut avoir un directeur RSE qui, lui, travaille sur ces sujets transformatifs depuis des années, qui va avoir une vision extrêmement ambitieuse du sujet, qui va se dire, chouette, enfin un texte sur lequel on va, à partir duquel on va pouvoir véritablement passer un cap et re-questionner le modèle d'affaires d'entreprise, etc., etc. Puis au milieu de ça, il y a un DG qui aura peut-être une vision coût du sujet. En tous les cas, il y a toutes les chances que les personnes clés de l'organisation aient une vision différente du sujet, qu'ils ne soient pas alignées. Tant que cet alignement n'est pas fait, ça sera très compliqué de démarrer le projet. Et assez convaincu, en tous les cas, avec les premières entreprises avec lesquelles on a eu l'occasion de discuter, qu'un alignement spontané de toutes les personnes qu'on vient de citer sera très rare. Très, très rare. Et peut-être réservé à des entreprises qui ont déjà des niveaux de maturité très élevés. Ce qui, évidemment, n'est pas forcément le cas de ceux qui sont récemment concernés du fait de l'abaissement des seuils. Donc ça, c'est la première, c'est un point qu'on met un peu au cœur des discussions, en tous les cas, au début du projet de mise en œuvre. Alors, quand on va commencer à s'intéresser à ce sujet de CSRD, quand on en a compris et son ambition, et sa complexité, et ses ramifications, comme Delphine a pu vous expliquer, on va s'apercevoir qu'il y a effectivement un certain nombre d'incontournables, et qu'il y a un certain nombre de gros morceaux qu'il va falloir traiter. Alors, on va revenir en détail, parce qu'on les a tous à peu près évoqués dans la première partie de la présentation. Sauf peut-être un, sur lequel je vais m'attarder, qui est le système IT, qui est un point essentiel. Clairement, la CSRD va élever le niveau d'exigence par rapport à la donnée. On pouvait bricoler une DPEF sur Excel, même dans une entreprise assez importante, et ça pouvait fonctionner. Ça pouvait fonctionner parce que, là encore, derrière, le niveau d'auditabilité, les exigences des commissaires aux comptes ou des OTI faisaient que ça passait en quelque sorte. Bon, là, globalement, ça ne va plus marcher. Ça ne va plus marcher parce qu'il va y avoir beaucoup plus de données. Et ça ne va plus marcher parce qu'en plus, ces données, il va falloir leur assurer une forme d'homogénéité, il va falloir organiser des process de collecte plus complexes, il va falloir que ça soit traçable, auditable, documenté. Enfin, vous avez compris que il allait falloir déployer des solutions spécifiques, dédiées. Alors évidemment, les ERP des classiques que vous avez sont en général pas encore, ça viendra sûrement. Beaucoup des grands éditeurs travaillent d'arrache-pied pour voir comment ils vont réussir à intégrer l'extra-financier dans le financier, parce qu'ils vont finir par proposer des choses. Aujourd'hui, c'est pas prêt, globalement. Et donc, la plupart des entreprises sont conduites, pour celles qui ne l'ont pas encore fait, à déployer des systèmes informatiques spécifiques pour réussir à porter ce processus extra-financier. Ça, c'est un projet informatique en tant que tel. Donc, c'est le projet dans le projet. Donc, ça, c'est extrêmement important. La chaîne de valeur, on en a parlé. Je pense que les autres sujets, on en a parlé, notamment sur l'aspect contrôle interne que Delphine a longuement développé. Pareil, quand on construisait une DPEF, la question du contrôle interne attaché à la DPEF, c'était un non-sujet, en fait, à la marge. Enfin, on ne se posait pas vraiment la question de comment on allait déployer un contrôle interne autour de la DPEF. Là, aujourd'hui, ce n'est plus une option, c'est obligatoire. Voilà. Donc, quelques sujets clés. Autre sujet clé, et là aussi, ça change profondément les habitudes. En élevant l'extra-financier au même niveau que le financier, eh bien, il va falloir impliquer de la même façon ceux qui étaient responsables du financier. En l'occurrence, un comité d'audit et d'une façon générale, les organes de direction de l'entreprise. Il est assez fréquent que dans un groupe, tout le monde était extrêmement attentif à l'arrêté des comptes, à la communication financière, à la relation avec les commissaires aux comptes, etc. Clairement, le niveau d'ambition, l'intérêt qu'on portait au sujet extra-financier est dans la plupart des groupes très clairement un cran en dessous. Voire, on a des comités d'audit, même dans des sociétés de taille importante, qui ne se sont jamais vraiment penchés sur la question de l'extra-financier. Bon, ben ça, évidemment, c'est fini. Donc, là aussi, un travail d'éducation un travail d'implication de ces différents organes de gouvernance qui vont devoir s'approprier le sujet. Alors, là aussi, alors sur ce sujet de comment on s'y prend, comment se séquence un projet CSRD, pour essayer de donner quelques éléments de méthode. Première phase, on considère nous que c'est un projet de transformation. C'est-à-dire qu'au début, on s'est expliqué par quel bout on le prend et est-ce qu'on le cantonne à de la conformité ou est-ce qu'on s'appuie sur la CSRD pour transformer l'organisation. Nous, on est convaincus que même ceux qui vont essayer de l'aborder à minima comme un simple sujet de conformité vont finir par se faire rattraper et qu'ils n'échapperont pas à l'effet transformatif compte tenu de ce qu'est le texte, fondamentalement. Donc c'est quand même plus prudent de tout de suite l'envisager plutôt comme un projet de transformation. Après, la profondeur de la transformation, là, on est sur des sujets stratégiques qui nécessitent d'être définis et qui vont être évidemment assez variables d'une organisation à l'autre. Donc un projet, comme tout projet d'entreprise, ça se structure, ça s'organise, ça se staffe, ça se planifie, ça se séquence, ça se phase, etc. Donc là, on retrouve un peu, autour de cette phase-là, un peu tous les fondamentaux de la gestion d'un projet un peu complexe dans une organisation. Encore, ce qui va être un peu nouveau, et là où ça va souvent coincer, c'est que c'est un projet fondamentalement transverse. C'est pas la direction RSE qui va faire ça dans son coin toute seule. Elle ne va pas pouvoir faire grand-chose si d'emblée elle n'implique pas la totalité des directions de l'entreprise, qui évidemment toutes, quand on voit ce que couvrent les ESRS, vont devoir d'une façon ou d'une autre, à un moment donné, être impliquées. Qu'est-ce qu'on peut faire sur une activité industrielle si à un moment donné le directeur industriel n'a pas compris ce qu'on essayait de faire et n'a pas compris pourquoi il fallait fournir un certain nombre d'informations? Qu'est-ce qu'on peut faire sans le DRH? Qu'est-ce qu'on peut faire sans le DAF, là encore, qui jusqu'à présent pouvait être un peu loin du sujet? Organisation du projet. Deuxième étape fondamentale, bien se connaître soi-même. Bien se connaître soi-même, on l'a déjà un petit peu évoqué, hein, donc c'est essentiellement l'exercice de double matérialité. Ça veut aussi dire, comme l'expliquait Delphine, que les exercices de double matérialité qui ont pu être faits rapidement, en s'appuyant souvent sur une démarche de bon sens, mais très peu de formalisation, très peu de process autour, très peu de contrôle, beaucoup, il va falloir les refaire, en fait. Il va falloir les remettre sur la table et se dire, OK, finalement, est-ce qu'on est au bon niveau sur notre analyse de double matérialité? Et surtout, est-ce qu'elle est documentée? Est-ce qu'on est capable d'expliquer ce qu'on a fait? Est-ce qu'on est capable d'expliquer, finalement, pourquoi tel sujet est matériel ou pas? Voilà. Donc ça va être une des étapes. Troisième étape, renforcer la politique de développement durable dans tous les domaines matériels. Ça, c'est explicite. Hein. C'est-à-dire qu'on a déjà la possibilité, sur des choses bien identifiées, de passer à l'action et d'élever le niveau d'ambition. Sur tous les sujets qu'on connaît bien. Mobiliser les équipes clés pour la transformation des processus. Donc, exercice là aussi que tout directeur de projet connaît bien, la mobilisation des acteurs. Une étape, là aussi rendue beaucoup plus touffue, qui est l'organisation de la collecte et le contrôle des données, avec très souvent la nécessité, à ce moment-là, de se dire « Ok, mais là, on ne va pas y arriver comme on faisait avant, donc il va falloir qu'on comprenne un petit peu quels sont les éditeurs de la place, les solutions de la place sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour structurer nos données. » Le processus de reporting, évidemment, comme le livrable n'est pas le même, la façon dont on va produire le livrable est assez différente, donc le processus de construction de la CSRD sera sensiblement différent du processus de construction d'une DPEF pour ceux qui étaient soumis et va être probablement complètement inventé pour ceux qui découvrent le sujet. Et ça, ça prend du temps. C'est quand même pas un exercice qui peut se résumer à quelques jours de travail dans des organisations un petit peu plus complexes. Et puis, nous, la préconisation, c'est évidemment d'anticiper le premier rapport, c'est-à-dire que les entreprises, vous l'avez compris, c'est une application progressive, hein, donc elles vont être soumises de façon échelonnée dans le temps. Donc déjà savoir, vous, concrètement dans votre entreprise, à partir de quelle est exactement le premier exercice sur lequel va porter le rapport de durabilité, quand vous êtes en situation de DAF ou dirigeant de structure. Et puis, bien le, si le rapport de durabilité, il faut le sortir en mars 2026, par exemple, ben, il ne va pas falloir se préoccuper du sujet en janvier 2026, parce qu'il va porter sur les données 2025. Donc, si les indicateurs, vous n'avez pas mis en place ce qu'il fallait pour capter l'information dès le 1er janvier 2025, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de mal à sortir quelque chose de satisfaisant en mars 2026, évidemment. Donc il faut l'anticiper. Et puis pour que ça se passe bien, on ne l'a pas écrit tel quel, mais à un moment donné, il y a un exercice d'audit à blanc. Il y a toujours une phase d'audit à blanc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on le fait pour de faux, juste pour vérifier qu'on est capable de le faire. Et puis si on le fait bien, on fait même un audit à blanc, et donc on mobilise son commissaire aux comptes et on vérifie qu'il est capable de dérouler ses diligences dans de bonnes conditions. D'ailleurs, qu'il sera autorisé à le faire, parce que tous les commissaires aux comptes qui ne feront pas les formations nécessaires pour avoir l'autorisation de certifier des rapports de durabilité ne pourront pas forcément le faire. Donc il faut déjà se soucier du fait que votre commissaire aux comptes sera en situation de le faire, par exemple. Nous, notre préconisation, c'est vraiment de dérouler l'exercice complètement à blanc pour éviter les mauvaises surprises et puis pour aussi se donner les moyens de livrer un rapport de durabilité de qualité au moment où vous allez devoir le faire. Ensuite, ce n'est pas un exercice one shot. Une fois qu'on a fait ça, dans beaucoup d'entreprises, le résultat sera que moyennement satisfaisant, il faut être honnête. Partir de rien quand on n'a jamais fait une DPEF dans les délais impartis et sortir un rapport de durabilité qui sera au niveau attendu, il ne faut pas rêver, ça va être compliqué. Donc les premiers, ils ne vont pas être terribles. Donc en fait, on va nécessairement toujours s'inscrire dans un processus d'amélioration continue. Et donc, il sera à peine sorti qu'il faudra se poser la question de « Ok, mais là, ça s'est fait un peu dans la douleur. On a quand même fait quelques impasses. Comment on va faire mieux dans un an ?» Voilà. Donc, c'est un processus qui va forcément être itératif. Hop, hop. Tu voulais peut-être ajouter quelque chose, Delphine ? Non ?
Pas du tout. Non, mais on va parler de comment on vous accompagne ensemble. On a créé un partenariat entre Vert de Gris et Figure pour pouvoir le faire dans les meilleures conditions. Donc d'abord, on se positionne sur l'initiation du projet CSRD. Donc là, beaucoup d'entreprises se disent, bon, il faut y aller, mais comment ? Et donc, on a plusieurs façons de vous accompagner. On a des cours introductifs en ligne qui sont à destination de plusieurs types d'acteurs. Le CSRD Decide est à destination des décideurs, ou des curieux, mais surtout des décideurs. Le Drive est à destination de celui qui va prendre le projet CSRD, puisqu'on lui donne tous les outils nécessaires pour commencer le projet. Et le deep dive, ça sera le deep dive dans les normes, donc une quinzaine d'heures, et ça représente l'équivalent de 5 jours de formation en 15 heures, avec la différence que là, vous avez accès à ces textes pendant un an. Ce serait différent de passer un cours, puis de revenir chez soi, puis de plus se rappeler ce qu'on a fait. Là, vous pouvez y retourner pendant plusieurs mois. Vous aurez aussi la possibilité de faire venir des personnes en présentiel chez vous. Donc là, c'est le Figure et le groupe de coach qu'on a monté qui peuvent vous accompagner sur si vous souhaitez un format présentiel. C'est avec le contenu qu'on crée chez Vert de Gris. Hein, donc, mais c'est Figure qui le développe. Et puis, vous pouvez aussi faire une mission, organiser votre projet CSRD, toujours avec Figure, accompagné par nos contenus et l'expertise technique de Vert de Gris. Dans un deuxième temps, on peut aussi vous accompagner sur la double matérialité et ce qu'on appelle l'analyse d'écart, ou le fameux gap analysis. Donc de la même manière, ben là, on travaille aussi en partenariat. Donc vous avez un contenu avec une expertise technique en ligne, l'accompagnement de coach, et puis on peut réaliser ensemble la double matérialité et l'analyse d'écart USRS-CSRD. Et puis on va un petit peu plus loin, puisque je pense qu'il y a beaucoup d'offres s'arrêtent là. Nous, on souhaite vous accompagner pour le lancement de votre premier rapport CSRD, donc on le fait ensemble sur un projet d'un an qui s'appelle CSRD Impact, sur lequel donc, vous avez de A à Z les différentes étapes à réaliser. Et donc, du coup, c'est aussi une étape qui est en ligne avec le stratégique, l'opérationnel et puis les résultats et les coachs de l'équipe de Figure qui vous accompagnent. Donc, vous n'êtes jamais seul puisque vous avez une hotline, des coachings de groupe, des coachings individuels et une communauté qui se crée. Et donc, on vous accompagne de A à Z, je pense, sur le sujet. Voilà.
On va compléter aussi le dispositif sur des formations sectorielles. On peut peut-être en dire un mot. Vous voyez bien qu'on est sur un sujet où l'approche par secteur a quand même du sens. Et ça a aussi du sens de mettre ensemble des gens qui opèrent dans le même secteur. Voilà. Et donc on a en octobre prévu une journée sur le secteur agro-agri, qui est un secteur qu'on connaît bien. Donc c'est aussi pour ça qu'on commence par celui-là. Et par un autre secteur qu'on connaît aussi très bien, qui est le secteur du textile, de la mode, du retail, du luxe. Où il y a aussi des problématiques qui évidemment sont assez spécifiques. Et là, on retrouve aussi beaucoup d'entreprises, pour différentes raisons, notamment parce qu'elles étaient en statut SAS, pour beaucoup dans ce secteur-là, qui n'étaient pas du tout concernées par la DPEF et qui se retrouvent dans des délais courts, impliquées par la CSRD. Donc on a ces deux journées sectorielles, on en fera d'autres, sur autour du bâtiment, etc. En tous les cas, c'est pareil aussi, on peut aussi faire du sur-mesure.
Et c'est le 11 et 12 octobre à Paris.
Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je ne sais pas s'il nous reste du temps ou si on a déjà dépassé largement le temps imparti.
On peut prendre une ou deux questions.
Ouais.
Question rapide, je ne suis pas commissaire aux comptes ni DAF, donc peut-être ma question idiote. Les commissaires aux comptes ont des procédures de devoir d'alerte sur les aspects financiers. Quand ils voient qu'il y a des indicateurs qui ne sont pas bons, ils sont obligés de le faire. Là, on dit qu'on va mettre le financier et les critères ESG au même niveau. Est-ce qu'il y a déjà des procédures d'alerte déjà prévues sur des ratios, des indicateurs qui diraient bah non, là, l'entreprise, elle va dans le mur, d'un point de vue ESG, et des devoirs d'alerte du CAC vis-à-vis des parties prenantes ou pas encore?
Alors, j'ai tendance à dire, en toute logique, on va attendre vers ça. Mais pour le moment, on n'en est pas là. Voilà. Mais effectivement, on pourrait très bien imaginer que ce qu'on applique sur le financier, que ce soit en termes de devoir d'alerte, trouve à s'appliquer sur ce champ-là également. Mais alors là, c'est encore un champ inexploré, mais probablement une trajectoire, à mon point de vue.
Juste une question sur le format de dépôt du CSRD une fois qu'il est rempli. Est-ce qu'il est connu ou est-ce qu'il est encore en discussion? Est-ce qu'on entend HTML, XBRL?
Oui, il y a des normes XBRL qui sont en cours de discussion. Ça n'a pas avancé aussi vite que le reste. Il y avait un groupe pendant que moi j'étais dans la task force qui travaillait dessus. Et puis ça a dérivé en temps. Hein, mais il y a effectivement l'obligation d'être machine readable. Donc, Ça implique pas mal de discussions sur des tableaux, des façons de présenter les éléments qui vont se standardiser, mais ce n'est pas prêt. Mais oui, c'est une exigence, et c'est aussi une exigence de le rendre public. Donc il faut absolument que ça soit dans un endroit trouvable. Donc là aussi, il y a encore un petit peu de flou sur est-ce que ça sera votre site, un site français pour la France. Enfin, voilà. Mais il y aura une obligation, effectivement, de transparence là-dessus.
Les normes sectorielles, c'est sûr que c'est reporté ou il y en a qui devront être remplies dès 2025?
Alors, la discussion, en fait, la façon dont les normes devaient être publiées sont dans la CSRD aussi. C'est pour ça que je vous disais que tout est connecté à la CSRD et donc il y avait des dates obligatoires. Donc là, ils vont devoir un petit peu sans doute rattraper une partie du retard pour que les normes sortent, mais il y a eu un décalage demandé par l'Europe du fait notamment de la demande de guidelines. Là, on parlait de guidelines double matérialité, chaînes de valeur qui sont en cours d'écriture, même de FAQ, de foire aux questions, en tout cas de soutien sur les normes qui sortaient. Et donc l'Union européenne a demandé à l'EFRAG de privilégier le soutien à la sortie de ces normes et aux demandes des entreprises et de reporter un petit peu le sectoriel. Mais ça va de toute façon sortir assez rapidement de par l'obligation que l'Europe a de les publier dans le temps imposé par la CSRD.
On voit finalement que tout se passe quand même un peu à marche forcée. Hein. C'est un peu le sentiment quand même qui, en général, qui se dégage. Ça va assez vite quand même. Et donc,